Alors, pour notre part, on s'en va, vous le savez, dans Daniel 3. C'est notre texte de ce matin. On a lu le chapitre au complet. On va se concentrer sur la fin du texte que j'aimerais lire à l'instant. Et on va revisiter quelques versets qu'on va vraiment mettre en lumière à travers ce message. Mais juste pour se remettre un peu dans cette atmosphère, au début, bon, on a toute la mise en scène, mais le point fort, c'est vraiment à partir du verset 23 et jusqu'à la fin du chapitre. Donc, j'aimerais qu'on lise. Ensuite, je vais prier. Et je vais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour ce matin. Donc, Daniel 3, 23. « Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, et que leurs cheveux n'avaient point été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui » et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. » Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. On te remercie, Seigneur, de ce qu'on peut considérer ce passage, ce texte majestueux de par la délivrance extraordinaire que tu opères dans tes enfants ici qui ont eu confiance en toi. Seigneur, ces choses ont été écrites pour notre instruction et c'est précisément ce qu'on veut. On veut être enseigné de toi-même ce matin. Seigneur, c'est toi le plus important dans toutes nos vies, dans cette réunion ce matin, dans nos cœurs qui ont soif et faim de toi. Seigneur, merci que ta parole est notre pain et l'eau vive dont on a besoin. Merci, Esprit du Dieu vivant, que c'est toi qui enseignes toutes choses, qui nous conduit dans toute la vérité. Que tu ailles ta volonté dans chacune de nos vies et dans cette Église, en tant que corps, en tant qu'entité, qui forme un tout pour ta gloire. Seigneur, on veut avancer comme ces gens ont avancé dans l'époque dans laquelle tu les as placés. On veut avancer dans la nôtre pour ta gloire, afin que tous, oui, sachent qu'il n'y a aucun autre Dieu qui délivre comme toi. Alléluia. On te prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on revisite un texte que, ben pas avec moi, mais vous avez, ben puis j'en fais partie, je l'ai écouté moi aussi, mais on a considéré ce texte à la fin du mois d'août avec Pasteur Burns. Mais comme je le disais tantôt, la parole est inépuisable. On a toujours des choses fraîches que le Seigneur peut nous partager, nous révéler de sa parole. Et donc, j'aimerais qu'on regarde ce texte. Qui est vraiment une, si vous voulez, c'est une image, une illustration de l'Église persécutée qui ne flanche pas. Et je crois que la leçon principale de notre texte, c'est que Jésus est là pour rencontrer cette Église au milieu de l'épreuve, de la fournaise. Et c'est ça le trésor de Jésus-Christ. Jésus, notre trésor, pourquoi il est notre trésor? Parce que il est toujours là. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là pour rencontrer ceux qui passent par la fournaise de l'épreuve. Et Pierre avait à s'adresser à des gens qui vivaient une genre de situation comme ça. Lorsqu'il a écrit un Pierre, c'était des chrétiens persécutés, dispersés à cause de leur foi. Et il leur écrit dans 1 Pierre au chapitre 1, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est ce qu'on considère ce matin. Qu'est-ce qu'on a de plus précieux en ce moment? C'est même sorti dans la prière. Seigneur, si on perdait tout, tu es notre trésor. C'est toi qui es le plus précieux. Et c'est ce qu'on voit, c'est chez jeune homme hébreu ici, qu'on aime tant. Pour eux autres aussi, nous ne pas les avoir connus personnellement, mais on est encouragés, fortifiés par leur courage, leur foi courageuse. Et je crois qu'en ce moment, dans l'époque dans laquelle Dieu nous a placés, celle que nous vivons, que Dieu révèle l'œuvre de chacun. Je crois, et c'est le titre de mon message, je crois que d'une façon inouïe en ce moment, le Seigneur nous place dans une situation, une crise, qui révèle beaucoup de choses. C'est le thème de l'année, c'est le thème pour 2021. Et quand on regarde, je crois qu'on voit de plus en plus une ligne de démarcation de plus en plus claire entre ceux qui acceptent la fournaise de l'épreuve versus ceux qui la rejettent. Et ça donne vraiment... Puis on ne veut pas diviser, mais la division se fait d'elle-même. Ça donne... Ceux qui, comme Shadrach, Meshach et Abednego, disent « Ok, on va passer par cette épreuve, on ne va pas l'éviter » versus ceux qui veulent l'éviter. Et là-dessus, j'ai un autre passage dans toujours 1 Pierre, mais au chapitre 4 cette fois-ci. « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Savez-vous qu'historiquement, c'est la chrétienté normale. C'est nous qui avons été dans une époque extraordinaire. D'avoir été béni de tant de liberté et tout ça. Mais ça continue au verset 12, au verset 13 de 1 Pierre 4 que je suis en train de vous lire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. On pense souvent que nos œuvres, les œuvres que nous faisons pour Dieu, que c'est ça qui va passer au travers du feu. Mais en fait, les œuvres qui vont passer le test du feu, la fournaise de l'épreuve, ce sont celles qu'il fait à travers nous, ou si vous voulez, qui sont faites en lui. Ce qui va ressortir, c'est tout ce qui est de Christ. Le reste, ça va partir en fumée. Il est plus précieux que l'or. Il est celui qui passe au travers du feu. Et c'est ce qui est fait en lui qui dure. C'est ça le trésor de la communion des souffrances de Christ. On le trouve, lui, au milieu même de l'épreuve. Et ce Dieu qui révèle l'œuvre de chacun, révèle où est notre foi. Hein? Shadrach, Meshach et Abednego, ce qu'ils ont passé au travers, montraient où était leur confiance. Et lorsque tout le monde, un jour... va partir en fumée, ce monde qui n'est que de passage, qui n'est qu'une vapeur. Tout ce qui va rester, c'est ce qui est de Christ, sa justice, qui couvre ses enfants. Et tous les liens du péché, de la peur vont être brûlés. Et tout ce qui va rester, c'est ses œuvres, celles qui ont été faites en lui. Ses œuvres préparées d'avance qu'il a pour ses enfants. Puis là, on va se rendre compte pourquoi Jésus-Christ est un si grand trésor. Parce que c'est... tout ce qui compte, tout ce qui reste. Lorsque tout le superflu, le non nécessaire va être parti en fumée. Tout ce qui va rester, c'est sa vie et le fruit de sa vie. Et c'est ça que j'aimerais qu'on regarde ensemble. Trois puissantes images avec le texte qu'on a ici. Trois puissantes images du Dieu qui révèle l'œuvre de chacun. D'abord, dans le verset 25, on voit que Jésus est présent dans la fournaise de l'épreuve. Regardez quand ça dit au verset 25, « Ici, c'est le roi qui parle. Il dit, il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Et c'était le fils de Dieu, la préincarnation de Christ, l'ange de l'Éternel, qui était là, qui les a délivrés au milieu même de l'épreuve. Et c'est la première image qu'on a. Jésus-Christ est présent dans la fournaise. Vous savez, le psaume 23 qu'on aime tant, hein? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Qu'est-ce que ça dit au verset 4 de ce psaume-là? Ça dit que « Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il est là avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Et au verset 5, ça nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » En face même de nos adversaires, il y a un endroit de communion là où est-ce que l'opposition est la plus féroce. Dieu dresse une table de communion, de temps, de spécial avec lui, où est-ce qu'on le rencontre. Vous savez, une table, c'est un endroit où est-ce qu'on mange, on partage, on a un bon temps. Le Seigneur, dans l'épreuve, dans même en face de nos ennemis, il a cette communion spéciale. Paul appelle ça dans Philippiens la communion de ses souffrances. Autrement dit, Dieu ne nous préserve pas de l'épreuve, parce que on ne doit pas être surpris de la fournaise d'épreuve. Il nous préserve pas de l'épreuve, mais il nous préserve dans l'épreuve.
Amen.
Dans l'épreuve. Et notre motivation, notre confiance, notre foi pour avancer malgré la peur, parce qu'on a tous peur. Si vous dites que vous n'avez pas peur, vous vous faites des accrocs, parce que nous sommes tous sujets à la peur. Notre motivation, notre foi pour avancer malgré la peur, c'est qu'il est là. C'est qu'on a un rendez-vous avec lui.
Amen.
Là où on a peur, il est là pour nous rencontrer, nous réconforter, nous rassurer. Et je crois que c'est Paul qui avait tellement raison d'avoir peur, lui qui était poursuivi partout. Et on a un passage qu'on connaît bien. Lorsque Paul a demandé à trois reprises que l'écharpe qu'il avait dans la chair lui soit enlevée, la réponse du Seigneur a été « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, on pourrait dire dans les souffrances, la fournaise de l'épreuve, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. »
Amen.
Qu'est-ce qui pousse une personne de la même nature que nous, comme Paul? Paul était exactement de la même nature que nous. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Paul à parler, à penser, à avoir une telle conviction que celle qu'on lit dans 2 Corinthiens 12? C'est l'expérience personnel de la communion de ses souffrances. Il savait que c'était ça la vie chrétienne, c'était ça qui avait de plus précieux. Christ est là au milieu même de l'épreuve. Il y a un rendez-vous divin qui ne se trouve nulle part d'autre. Et j'aimerais qu'on considère ça. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu même, c'est ce qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ lorsqu'on passe par le feu de l'épreuve. Donc, on peut se demander ce matin, est-ce que c'est vraiment ma motivation face à l'épreuve, face à la difficulté, ou c'est juste une théorie chrétienne, lointaine, peu concrète, ou qui est bonne pour les autres, mais que je ne connais pas vraiment? J'aimerais vous dire ce matin que je peux vous dire avec une pleine certitude que la volonté parfaite de Dieu, et savez-vous quoi? La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. La volonté parfaite pour chacun ici, c'est de nous rencontrer dans l'épreuve.
Amen.
Dieu ne va pas nous préserver de l'épreuve, mais dans l'épreuve, il nous préserve de sa présence, par sa présence même. C'est ça sa volonté. Dieu ne veut pas nous faire du mal. Il veut nous rencontrer au milieu du mal qu'il peut permettre dans notre vie. C'est ça la fidélité, la bonté de Dieu. Mais il faut accepter d'entrer dans cette fournaise. C'est ça le problème, c'est profondément contre nature. Ça va contre tout ce qui est humain, d'autopréservation, de vouloir la sécurité. Et c'est là qu'on voit quelle foi nous anime. Quel type de fruit nous portons. Est-ce qu'on a une foi vivante ou une foi qui est juste théorique ou morte? Et j'aimerais juste dire en passant ici, si la peur de la mort t'envahit et te contrôle comme elle contrôle le reste du monde, demande à Dieu qui sonde ton cœur, parce que je pense qu'une démonstration que tu n'as pas cette foi dont parle 1 Jean chapitre 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Quel est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Sois honnête ce matin. Est-ce que, comme ça nous dit dans Hébreu, par crainte de la mort, tu es retenu dans la servitude? Que tu n'as pas cette liberté? Reconnais que Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Dieu rencontre ses enfants au milieu même de la fournaise, mais il appelle à lui ceux qui ne connaissent pas à travers la souffrance. Donc Dieu est toujours bon. La souffrance est le résultat du péché. On est dans un monde brisé, dans un monde à cause du péché qui ne marche pas comme il devrait marcher. Mais Dieu est là, puis il rencontre ses enfants au milieu même de l'épreuve et il appelle à lui ceux qui ne connaissent pas encore. Dieu n'a aucun blâme à prendre pour ce qui peut arriver. On ne peut que le louer pour sa fidélité, sa bonté, d'aller et rencontrer au milieu même de la souffrance ceux qui sont dans la détresse. Si vous êtes en tant qu'enfant de Dieu, aux luttes, comme Paul le dit, lutte au dehors, crainte au dedans. Le problème qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on ne connaît pas assez notre Dieu. Mais savez-vous, si on connaissait comment notre Dieu est fidèle, comment il est tout-puissant, comment il est bon, et tout ce qu'il permet a toujours un but bienfaisant, bienveillant, on n'aurait rien à craindre. Mais que Dieu se révèle en nos cœurs comme étant fidèle, tout-puissant, bon. Et dans ce cas-là, on va se rendre compte, on n'a rien à craindre. Je vous amène là-dessus. Jean 10. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ah, et j'aime aussi comment Jésus termine le fameux sermon sur la montagne quand ça dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans Luc, ça rajoute, dans Luc 12, 32, ne crains point petit troupeau. On est juste un petit troupeau dans ce monde, hein? De loup. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume.
Alléluia.
Quelle sécurité, hein? Donc Dieu, Jésus-Christ lui-même, rencontre ses enfants dans la fournaise de l'épreuve. C'est la première image qu'on voit ici avec nos amis. La deuxième, au verset 27, c'est que Christ nous couvre de sa justice. Regardez au verset 27, ça dit « Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que leurs cheveux n'avaient point été brûlés, que leurs caleçons n'avaient pas été endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Les flammes n'avaient eu aucun pouvoir, aucun effet sur leurs vêtements. » Ça illustre que lorsqu'on est couvert de la justice de Christ, nous sommes couvert de ce qui passe au travers du feu. La justice de Christ est celle qui passe au travers du feu et le feu du jugement de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13, ça dit que le feu va révéler ce qu'est l'œuvre de chacun. Et le seul type d'épreuve qui passe le feu épurateur de Dieu, le seul type d'œuvre, pardon, c'est celle, comme je le disais tantôt, qui sont faites en Jésus-Christ, par lui. Pourquoi? Parce que le reste, c'est quoi? C'est quoi notre justice à nous? Un vêtement souillé. Et on dit des fois, hein, au nom sauvé, ah, tu ne peux pas te sauver toi-même, ta justice est comme un vêtement souillé. Pensez-vous vraiment qu'une fois qu'on est sauvé, que notre chair a une espèce de bonus, puis que là, nos œuvres qu'on fait par la force de notre chair, qu'elle est sanctifiée? Non, elle est tout autant un vêtement souillé. Ce n'est que la justice de Christ qui passe le feu de l'épreuve. Ah, mais j'aime comment ça dit dans Colossiens, au chapitre 1. Verset 10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toute bonne œuvre, en toutes sortes de bonnes œuvres, pardon, de bonnes œuvres, et croissant par la connaissance de Dieu. Le type d'œuvre que Dieu fait à travers ses enfants, c'est le fruit d'une connaissance relationnelle. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on est uni à Christ dans sa mort et sa résurrection, étant mort au péché et vivant pour Dieu, ça va produire des œuvres. Cette relation produit du fruit, de la même façon que lorsque on est en relation avec quelqu'un qu'on connaît, il va sortir quelque chose de ça. Si j'ai des frères, des sœurs, ou moi je suis marié, ou dans une famille, là, on se connaît, on s'encourage, il sort du fruit de ça. Ah, on en est pour prendre, je ne sais pas si c'est québécois ou français, on en est remueté. En tout cas, vous comprenez ce que... On en est mieux que ce qu'on était avant. Ben c'est ça aussi qui ressort de notre relation avec Christ. Maintenant, parlons un peu de justice. Couvert de la justice de Dieu, ses vêtements, hein, ça nous parle d'être couvert de la justice de Christ. C'est une image qui est prise ailleurs dans la parole de Dieu, où est-ce que les saints qu'on voit dans l'Apocalypse, hein, ils étaient revêtus de vêtements blancs. C'est une image qu'on voit un peu partout dans les Écritures pour parler d'être couvert de la justice de Christ. Et ça nous parle dans Éphésiens chapitre 6, avec la fameuse armure du croyant. Ça dit « Tenez ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Encore quelque chose qui nous couvre ici, la cuirasse de la justice. C'est une protection qui est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas la nôtre. C'est la protection de Dieu pour voir celle de Jésus-Christ qui nous couvre. Et de deux côtés, j'aimerais juste développer les deux côtés ici de la justice de Dieu, la justice de Christ qui nous est imputée. Hein? C'est notre justice positionnelle, comme ça nous dit dans Romains au chapitre 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous avez reçu Jésus-Christ comme votre sauveur, il est votre justice. Dieu vous regarde comme étant parfait. C'est pas de la prétention que de dire ça, c'est de la foi dans celui qui nous couvre de sa justice. Et ça, c'est notre position en Christ, la justice imputée. Mais de cette justice découle celle qui nous est communiquée. En anglais, ils disent « imparted », qui nous est donnée. La justice qui découle de notre position en Christ, ça nous en parle aussi dans Romains, au chapitre 8, ça dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Et ça, c'est la grâce d'être couvert de la justice de Christ qui nous donne tout ça. Et c'est notre protection contre l'accusateur des frères, Satan, qui veut nous montrer notre péché, nous montrer comment on ne l'a pas. Savez-vous quoi, la plupart du temps, je dirais presque tout le temps, il a raison. Il nous accuse de choses qu'on a faites. Mais gloire à Dieu, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et il est notre justice devant le Père, parce que même s'il a raison d'accuser des frères, il y a un bout qui oublie. C'est que oui, ce péché, on l'a fait, mais Christ a payé pour. Et Christ l'a couvert par son sang, il a payé pour. Ce n'est plus notre péché. Christ l'a pris sur lui. Vous rendez-vous compte, mes amis, de la transaction extraordinaire? Ce n'est plus notre péché. Qu'on ne prenne pas pour nous ce que Christ a pris sur lui. La justice de Christ, c'est pas juste une théorie, mes amis. Satan veut nous le remettre sous le nez et il a été placé sous le sang précieux de Christ, effacé. Dieu l'a pris, il l'a jeté derrière lui au fond de la mer. Et c'est plus le nôtre du tout. C'est Christ qui l'a pris sur lui-même. Wow! Ça, c'est quelque chose, mes amis. Une autre chose sur cette justice. On parlait de cuirasse dans Éphésiens. Ça reprend cette image dans Thessaloniciens, oui, mais au chapitre 5. Où est-ce que ça dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et au verset 8? Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Ici, ça amène une autre information, un autre élément important par rapport à cette cuirasse de la justice. C'est qu'elle est, elle a deux côtés, comme je l'ai dit, mais ici, ces deux côtés-là sont qualifiés de foi et d'amour. Vous voyez, c'est quoi le rapport avec la justice? Ben, en fait, il y a un rapport. Parce que c'est quoi la justice? La justice, c'est la rencontre de la foi et de l'amour. Vous regarderez ça par vous-même, vous étudierez 1 Jean. Puis là, je vais vous amener le psaume 85, mais la foi et l'amour ensemble, ça donne la justice. Christ était complète. La foi, c'est toute la côté vérité, puis la foi dans la vérité. Christ incarnait la vérité même et il était l'incarnation aussi de l'amour. Et lui qui faisait ça constamment et tout le temps parfaitement, il avait cette justice parfaite. Il accomplissait complètement et tout le temps la volonté de Dieu. Je ne vais pas y aller plus qu'en détail que ça, mais juste là-dessus, remarquez, et là je vous cite le psaume 85, au verset 11, ça dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » Puis ça nous dit ensuite, au verset 12, « La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. » La fidélité germe de la terre. Vous savez de quoi ça nous parle, ça? L'incarnation de Christ, la fidélité ou justice, germe de la terre. Et Christ, hein, qui est venu sur terre, et lui, dans sa justice parfaite, lui, le premier, la prééminence, c'est lui qui est venu pour nous donner cette justice. Et quand ça dit ensuite, la justice regarde du haut des cieux, ben ça, c'est le triomphe de Christ qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux élevés et qui, lui, est ressuscité pour notre justification. Mes amis, ça, c'est une image du fait que, de par l'incarnation de Christ et par son ascension, son couronnement, il est complètement vainqueur, il est notre justice parfaite. Lui a fait absolument, parfaitement tout ce que nous, nous n'aurions jamais été capables de faire. Mes amis, c'est ça notre sécurité, c'est ça notre bonheur, d'être couvert par la justice de lui-même qui, ça nous dit selon 1 Corinthiens chapitre 30, il est notre justice. Il est notre justice. Je vous lis le passage ici, ça dit « Car c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, par la volonté de Dieu qui a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » C'est la plus grande bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est la base même de notre liberté en Jésus-Christ. Parce que sa puissance parfaite brise les liens du péché, brise la puissance du péché. Ça, on a ça dans Romains 6, c'est un autre passage que vous pourrez aller voir par vous-même là-dessus, mais ça m'amène au troisième point, troisième image qu'on a dans notre texte avec Shadrach, Meshach et Abednego. Non seulement Christ nous rencontre au milieu même de l'épreuve, non seulement il nous couvre de sa justice, mais en plus on voit que Jésus-Christ brûle les cordes qui nous tenaient esclaves. Dans le verset 25, on apprend que ces gens se promenaient au milieu du feu, libres. Ils n'étaient plus liés. Ils sont rentrés liés. Puis, dans l'épreuve, ils étaient complètement libres. Je crois qu'on a là une image du fait que on est libre d'une vraie liberté en Jésus-Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ça nous dit aussi que toutes les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, les choses qui nous tiennent captives. Nous renversons les raisonnements et tout autant qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est spécial que les pensées captives, c'est ce qui nous libère. Pourquoi? Parce que ces pensées-là, c'est ça qui nous rend esclaves. Quand ils sont amenés captifs à l'obéissance de Christ, enfin, c'est la liberté. Pensez-y, on est esclaves de nos inquiétudes, de nos grosses machinations qu'on fait de ça, petit, peut-être, ça va arriver par-ci, par-là, puis finalement, au bout du compte, il n'y a rien de ça qui arrive. La seule chose qui est bonne à faire avec des pensées comme ça, c'est de les amener captives à l'obéissance de Christ. Ces pensées peuvent s'ériger en forteresse dans nos vies. Croire des mensonges, croire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas selon la parole de Dieu, selon ce que nous sommes en Jésus-Christ, ça nous rend esclaves toute notre vie. Mais Christ brûle ces cordes qui nous tiennent esclaves. Et ce que j'aimerais dire par rapport à ce que nous vivons en ce moment, c'est que il y a une puissance énorme de peur qui s'exerce en ce moment sur la société au complet, n'est-ce pas? Et évidemment, l'Église de Jésus-Christ n'est pas épargnée de cela. Mais c'est une puissance spirituelle qui propulse ceux qui en sont esclaves. Soit, je dirais, on voit en ce moment deux grandes catégories de ce que ça donne comme fruit, cette peur, cette esprit de peur, soit la colère et la rage. N'est-ce pas qu'on voit beaucoup de colère puis de rage monter? Il y a quelque chose d'électrique là-dedans. Ou il y a aussi cette auto-préservation, cette auto-rédemption. Je vais me sauver. J'ai tellement peur que je me trouve une façon de me sauver de tout ça. C'est une des deux réactions. Et chacune de ces puissances spirituelles nous éloigne, nous empêche, écoutez bien, de rencontrer Dieu dans la fournaise de l'épreuve. Parce que je vais essayer de me réfugier à quelque part. C'est comme si Shadrach, Meshach et Abednego, il était parti, pris la poudre d'escampette, essayer de se cacher. C'est ça que la peur nous fait faire. C'est ça que la peur a fait dans le jardin. Ils se sont cachés de celui qui était leur vie, leur liberté, leur tout. Alors qu'on ne voit pas le rendez-vous de Dieu. Pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a pas encore expérimenté la libération que Christ donne sur cette puissance. Et cette puissance de la peur, mais la puissance de la vie de Christ, elle est supérieure, elle supplante toutes les autres puissances spirituelles. Je veux juste vous donner quelques versets là-dessus en rafale. Des versets tellement précieux, certains vous les connaissez très bien, peut-être même par cœur. Il y en a même un qui nous a été cité tantôt. Sur la crainte, écoutez ce que c'est, Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et on a entendu tantôt, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Psaume 46. Écoutez psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Et comme ce n'était pas assez, ça continue dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Et finalement, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Je pense que la seule différence qu'on peut voir entre le monde et les chrétiens, c'est pas un qui a peur puis l'autre qui n'a pas peur. C'est un qui est esclave de la peur puis l'autre qui va à celui qui libère de la peur. Et c'est ce qu'on voit avec la belle profession de nos amis ici, qui, devant le roi, ça devait être assez impressionnant, je parlais de ça, tu sais, le roi qui arrive comme ça, avec grande pompe, puis qui n'est pas content, et qui disent, on doit dire, avec l'audace de la foi, « Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, il pousse le zèle à dire, « Sinon au roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Parlons de séparation d'Église et de l'État, ce n'est tout qu'un exemple. Non, mais c'est vrai, c'est même pas une farce, là. Je veux dire, puis ils sont... Je veux dire, est-ce qu'on croit que la Bible est inspirée de Dieu puis qu'elle est... qu'elle nous dit que notre conduite et notre foi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau? Et c'est la seule façon de vaincre la puissance de la peur. Pourquoi? Parce que c'est notre accès au Dieu Tout-Puissant. Ces gens-là n'étaient pas exempts de peur, mais ils étaient en connexion. Même avant de le rencontrer dans la fournaise, déjà, ils étaient en communion avec ce Dieu vivant qui leur donnait ce courage, ce Dieu Tout-Puissant. Il était plus grand que le roi qui était devant eux. Puis imaginez-vous, là, c'était quand même impressionnant. Il n'était pas tout seul. Le roi arrive avec toute sa suite, puis tout le décorum, puis tout ce qui va avec, puis là, il les met sur le spot, puis il dit, là, vous autres, là, vous êtes dans le trouble. Puis ils ne sont même pas laissés impressionner par ça, parce que leur Dieu était plus grand que tout ce qu'ils voyaient là. Les yeux de la foi étaient fixés sur celui qui est plus grand que tous les rois de la terre. Oh, mes amis, que le Seigneur nous enseigne, nous convainque, qu'en vertu de la mort que nous avons, nous sommes morts avec Christ, nous sommes morts à ses peurs. C'est, je veux dire, ça n'a plus de puissance sur les enfants de Dieu. Ses peurs veulent nous rendre esclaves, mais leur puissance sur nous a été brisée. Leur autorité démantelée, leur attrait rompu par la puissance de la vie qui est supérieure, la vie de Christ, qui conquiert tout que rien n'arrête. Le tombeau n'a pas pu arrêter Christ. Les peurs dans nos vies ne peuvent pas arrêter sa vie de s'exprimer. Que nous vivions à la lumière de cette vérité au lieu d'avoir peur de vivre. Ça m'amène à amener un point en guise vers la conclusion. Pensez-y bien. Nos trois amis ici, là, ils étaient ennemis devant trois grands mensonges que j'ai retenus ici. Écoutez bien. Il était mis devant le mensonge qu'une statue morte est digne d'adoration, ainsi que l'homme qu'elle représente, qui n'est pas plus vivant non plus, parce qu'il était mort dans ses offenses et ses péchés, et qui était tout aussi vain d'ailleurs. Maudit l'homme qui se confie en l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. C'était le premier mensonge. Deuxième mensonge, que leur vie était plus précieuse que celui qui est la vie. Troisième mensonge, que leur sécurité était dans ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils ne faisaient pas, et non dans celui qui est leur rempart, leur haute retraite, leur refuge dans toutes les situations de la vie. Pensez-y, c'est à ça qu'ils faisaient face, et c'est exactement à ça que nous faisons face. Qu'on considère les choses sous cet angle, afin qu'on comprenne mieux la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes. On comprend aussi que notre plus grande arme dans le monde dans lequel on vit, dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est la vérité propulsée par l'amour pour Dieu, pour notre prochain. Et c'est ça dont ce monde tout croche, tout brisé, a le plus besoin. De voir ce Dieu qui délivre, de voir ce Dieu qui est vivant, qui rencontre ses enfants au milieu de l'épreuve, qui appelle les perdus par l'épreuve. Parce que comme on l'a souligné au début, c'est juste ça qui va rester. Pensez-y, là, le jouage à l'Église, les apparences, l'orthodoxie, la politique chrétienne ou non, le fait ou le fait pas, ça va tout partir en fumée. Tout ce qui va rester, c'est ce qui est fondé sur le roc de la vérité et de l'amour qui est en Jésus-Christ. Et c'est là-dessus que je veux qu'on termine, avec ce message qui nous rappelle que Dieu est celui qui révèle l'œuvre de chacun. Des fois, on pense à ça, Dieu révèle l'œuvre de chacun. C'est pas nécessairement comme on l'imagine. Ah, j'ai fait cette œuvre-là, celle-là va durer, puis celle-là va pas durer. Celle-là est bonne, celle-là est pas bonne. Non. Comme pour tout le reste, la seule chose qui a une valeur éternelle, c'est ce qui est fait par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Tout le reste, il n'y a rien qui va rester. Donc, les œuvres qui vont durer, qui vont passer, le feu purificateur de Dieu, ce sont celles qui sont faites en Jésus-Christ. Christ doit être à la source, doit être l'initiateur. Notre part, c'est simplement de nous attacher par la foi à celui qui nous fait porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres.
Amen.
Donc, mon appel, c'est simple ce matin. Exprimons à Dieu cet attachement pour lui en l'invoquant. Dieu, c'est toi que je cherche. Dieu, ce que j'ai besoin, là, c'est de te rencontrer au milieu de la fournaise de l'épreuve. C'est toi que je veux plus que d'autre chose. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Oh Dieu, si je n'étais pas couvert de ta justice, j'aurais aucune espérance. Mais à cause que je le suis, j'ai de l'assurance comme un lion. Pourquoi? Parce que je suis revêtu de la justice parfaite de Christ. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Absolument rien. Même face à l'accusateur des frères. Oh, et Seigneur, je te remercie que tu libères d'une liberté incomparable, d'une liberté inaltérable. qui ne vient que de toi. Donc, invoquons celui, si vous êtes ici et vous ne le connaissez pas encore personnellement comme votre sauveur, invoquez celui qui est la vérité, qui libère réellement, qui lave de tout péché. Et si vous êtes ici en tant qu'enfant de Dieu, invoquez celui qui est votre vie, celui qui est le seul qui vraiment vaut la peine de vivre pour. Tout le reste n'est qu'éphémère. Le monde et sa convoitise passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On te remercie, Seigneur, de ce que tu nous mets ta grâce en Jésus-Christ devant les yeux encore une fois ce matin. Merci pour cette image simple mais tellement puissante de tes enfants que tu as rencontrés au milieu même de l'épreuve, que tu as couvert de ta justice et desquels tu as brisé tous les liens. Oh Seigneur, quelle joie d'être participant de ces choses aussi encore aujourd'hui en 2021. Et notre prière ce matin, si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ personnellement comme son sauveur, comme sa vie, comme son Seigneur, que tu le convainques, que tu l'amènes au pied de la croix, qu'aujourd'hui il se voit, elle se voit comme elle est, comme il est et comme toi tu es. Seigneur, qu'aujourd'hui on ait la joie de voir quelqu'un passer de la mort à la vie, du royaume de Satan au tien, des ténèbres à la lumière. Aie pour nous tes enfants, Seigneur, merci qu'on n'a absolument rien à craindre. Tu es avec nous. On n'a pas à promener nos regards inquiets. Merci pour ça, Seigneur. On se réjouit en toi. On s'en remet à toi, Seigneur. Bénis ce temps de prière. Dirige ton peuple qui maintenant peut répondre à ce que tu as révélé à chacun. On te prie ces choses au nom de Jésus. Amen.